messieurs, mesdames. Les textes que nous connaissons en langue avestique sont essentiellement des collections liturgiques. La liturgie longue, avec ses variantes, est une collection de rituels mineurs. La première a été pendant deux millénaires la marque la plus caractéristique des Zoroastriens. Lors de ces quatre conférences que Jean Kellens m'a donné l'opportunité de vous présenter, je vais mettre en avant quelques problèmes concernant l'édition de son récitatif. La Vesta a été présentée au monde culturel et académique européen avec la traduction française d'Anquetil d'Hyperon à la fin du XVIIIe siècle. Par la suite, les recherches ont été basées d'une part sur les données apportées par lui dans son œuvre et d'autre part sur les manuscrits avestiques qui se trouvaient en Europe à l'époque. Ces manuscrits avaient diverses provenances. Anquetil d'Hyperon lui-même avait rapporté une collection de manuscrits, mais d'autres se trouvaient déjà en Europe, comme le des manuscrits avestiques de la collection de Thomas Hyde. Peu après la publication de la traduction d'Anquetil d'Hyperon, d'autres sont arrivés. L'anglais de Guise réunit une vingtaine de manuscrits, dont la plupart se trouvent actuellement à la British Library. Quelques années plus tard, Rasmus Rask rassembla en Inde la plus grande collection de manuscrits avestiques qui n'est jamais parvenue en Europe. Cependant, l'accès aux manuscrits étant limité, on a ressenti la nécessité de rendre les textes avestiques plus accessibles. Eugène Burnouf, professeur au Collège de France, a imprimé les manuscrits P1 de Paris en édition lithographique. Justus Holzhausen a publié les quatre premiers chapitres du même manuscrit. En Inde, une lithographie du Bidev Das Sade avec des instructions rituelles en Gujarati fut publiée pour l'usage des prêtres zoroastriens par Edalji Darabji Sanjana en 1830, mais sa diffusion en Europe resta très limitée. Le travail éditorial proprement dit commence avec les commentaires sur les Yasnas de Eugène Burnouf. Son but n'était pas de faire une édition, mais de donner une nouvelle interprétation du texte des Yasnas, basé sur la traduction sanscrite et la comparaison de l'avestique avec le sanscrit. Clarice Herrenschmidt a écrit que le commentaire sur les Yasnas is at once a dictionary, a grammar of Avestan and a commentary on the text of the Yasna. C'est à quoi on peut ajouter que c'est aussi la première tentative d'une édition critique d'un texte avestique. Il reproduit certes les textes du manuscrit P1, mais dans les commentaires, il cite les leçons divergentes des trois manuscrits parisiens additionnels. Deux Yasnas avec traduction sanscrite et un Sade. En outre, il évalua pour la première fois la valeur relative des différents manuscrits. Il édite P1, mais considère P11 comme supérieur. Hermann Brockhaus a publié en 1850 la cérémonie de Bidevdat selon les mêmes manuscrits, les P1. Il recueillit dans la paracritique les lectures divergentes de la lithographie de Bombay, puisque, je cite, la combinaison de ces deux témoins permet de représenter les textes corrects. Pourtant, il se limite à translittérer exactement le manuscrit P1. La discussion sur l'alphabet et l'orthographe avestique n'étant pas encore fermée, l'éditeur était donc obligé de reproduire minutieusement les variations orthographiques des manuscrits sans correction ou simplification. Les éditions proprement dites, basées sur l'utilisation d'un bon nombre de manuscrits disponibles, avec une analyse de la transmission et des choix éditoriaux, n'arriveront que dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Entre 1852 et 1896, les trois seules éditions de l'Avesta jusqu'à aujourd'hui vont paraître. Il s'agit des éditions de Spiegel, Vestager et Geldner. Les deux premières sont presque simultanées, alors que la dernière est parue 30 ans plus tard pour remplacer l'édition déjà épicée de Vestager. Elles sont les premières et les dernières éditions des textes avestiques qui méritent ce nom. Alors que jusque-là, les manuscrits parisiens avaient été la base de toutes les éditions, les points de départ pour Vestager et Spiegel fut la collection de Rask à Copenhague. Tous les deux n'ont visité Paris que très brièvement et n'ont pas utilisé les originaux parisiens, mais les collations de ceux-ci qu'avait préparé Holzhausen. Il en va de même pour Geldner. Donc, les manuscrits parisiens, si importants dans le début de cette étude avestique, n'ont pas été consultés directement pour les éditions des textes avestiques dont nous disposons. Ce fut l'origine de quelques erreurs importantes. Friedrich Spiegel s'est rendu en 1841 à Copenhague pour étudier les manuscrits pali de la collection de Rask. Il a fait la connaissance d'Holzhausen, qui a attiré son attention sur les manuscrits avestiques. Pendant les années qu'il a passées là, il a copié des manuscrits avestiques. Dès son retour à Erlangen en 1847, il commença son édition avec ses copies et de plus avec les collations des manuscrits parisiens faites par Holzhausen. Il avait aussi visité les collections de Oxford et Londres. Seuls deux volumes de l'édition parurent. Le premier, une édition de Bideftat en 1853, le deuxième, 5 ans plus tard, contenait les Vispera et les Jasna. Vestergaard, étant lui-même de Copenhague, avait entendu parler des aventures de Rask de l'Élysée. Suivant ses pas, Vestergaard alla en Inde entre 1841 et 1844 et fit un très bref séjour en Iran. Il recueillit là-bas quelques manuscrits, mais ils n'étaient pas comparables en importance avec ceux de son compatriote. Après son retour, il se mit à la tâche de l'édition en même temps que Spiegel. Il publia entre 1852 et 1854 l'édition la plus complète des textes avestiques jusqu'à aujourd'hui. Alors que Spiegel commença par les Vendidat, il débuta par les Jasna. Donc, pour les Jasna et les Vispera, Spiegel put utiliser l'édition de Vestergaard et ces dernières utilisa l'édition du premier pour le Bideftat. L'édition du Danois a conservé, même après l'édition de Gellner, son prestige comme l'édition la plus complète des textes avestiques. Une preuve évidente est sa réédition il y a 20 ans. Par contre, l'édition de Spiegel, qui ne comprenait pas seulement les textes avestiques, mais aussi leur version Pichlevi, a été complètement oubliée. Quelques idées de Spiegel auraient mérité pourtant plus d'attention, contrairement à son texte et son appareil critique qui sont clairement inférieurs à ceux de Vestergaard. 20 ans plus tard, l'édition de Vestergaard étant épuisée, Rudolf Roth a proposé à son élève Carl Friedrich Gellner d'en faire une réédition révisée. La collaboration de Edward William West avec lui a changé la portée de l'entreprise. West passa un an de plus de 20 ans pendant lequel il chercha des manuscrits avestiques et Pichlevi et établit des étroites relations avec d'importants membres de la communauté parsi. Par son intermédiaire, Gellner eut accès à de nombreux manuscrits indiens de l'Avesta. Ainsi, ce qui au début n'était envisagé que comme une réédition révisée est devenu alors l'édition canonique des textes avestiques jusqu'à aujourd'hui. Les éditions de Vestergaard et Spiegel furent faits avec les manuscrits disponibles en Europe. Cependant, le nombre de manuscrits employés, c'est une des différences les plus importantes entre les deux. Un cadre comparatif des manuscrits employés par chaque éditeur peut être consulté dans les handouts que j'ai fournis. C'est le numéro 1. Pour le Bideftat, Spiegel a utilisé essentiellement les mêmes manuscrits que son collègue danois 6 ans plus tard. La seule addition significative de Vestergaard sont les manuscrits liturgiques iraniens. Il employa Kanef, une copie d'un manuscrit iranien très ancien, MF2, et aussi une collation du début de l'original. C'est avec l'édition de Jasna di Visperat que les différences entre les deux deviennent évidentes. Là, Spiegel ne peut pas concourir avec Vestergaard. Il semble que l'apparition de l'édition de Vestergaard l'a découragé. En outre des manuscrits liturgiques déjà utilisés pour l'édition de Bideftat, il n'a utilisé qu'un seul manuscrit additionnel pour son édition de Jasna, l'important manuscrit de Mihravan K5, un des plus anciens manuscrits avestiques. Même en K7, le manuscrit avestique qui porte la date la plus ancienne et qui était à Copenhague n'a pas été employé par lui. À part cela, il n'employait que des copies et collations d'Holzhausen de quelques manuscrits parisiens et la lithographie de P1. Pour les Jasna, Spiegel n'a collationné que 8 manuscrits et collation Vestergaard plus de 30. L'augmentation définitive des matériaux n'arrive qu'avec Gellner. Il consulta pour les Jasna 75 manuscrits. Grâce à la médiation de West, on lui a envoyé des manuscrits en possession de quelques d'Astur Parsi et de quelques bibliothèques indiennes comme la Mulla Feroz Library et la bibliothèque de l'Université de Bombay. Ainsi, Gelna a triplé le nombre de manuscrits utilisés pour la liturgie longue par rapport à Vestager. Cependant, plus important que le nombre est la qualité de ces manuscrits. Je ne mentionnerai ici que quelques-uns des incorporations les plus importantes. Les manuscrits liturgiques d'Iran étaient complètement absents de l'édition de Spiegel et presque absents de celle de Vestager. Gelna a collationné pourtant un manuscrit Yasnasadeh, MF1. Pour le Bidevdat, Vestager n'avait qu'une copie d'MF2 et une collation d'imam pour les suites premiers chapitres, mais Gelna a eu la chance d'obtenir l'original ainsi qu'un manuscrit apparenté, le JP1, qui lui ont été envoyés d'Inde. Pour les Yasna avec traduction par Lévi, les nouvelles incorporations sont aussi importantes. Une nouvelle classe de manuscrits a été découverte, les manuscrits appelés par Gelna Yasna Pehlevi iranien. Ils appartiennent clairement à une tradition différente que les restes des manuscrits Pehlevi Yasna, d'où leur importance. Gelna a eu connaissance de quatre de ces manuscrits, PT4, MF4 et des manuscrits plus récents. Pourtant, il n'a pu utiliser pour l'édition de Yasna que PT4, puisque les autres lui sont parvenus trop tard. En plus du manuscrit Kazan de Yasna Pehlevi, il a ajouté un deuxième manuscrit aussi copié par Mihravanka et Hosro, le J2. Finalement, il a eu accès à un manuscrit avec traduction sanskrit très particulière, le S1, que j'ai retrouvé il y a quelques années à la bibliothèque de l'Université de Columbia. Le caractère définitif que l'édition de Gelna a eu jusqu'aujourd'hui s'explique justement par le nombre de manuscrits utilisés et par la difficulté à les réunir à nouveau. Pourtant, les matériaux de Gelna ne sont pas aussi complets qu'on l'a cru. Lors de la deuxième conférence, j'ai l'intention de parler des nouveaux manuscrits qu'on a trouvés récemment, mais permettez-moi de faire maintenant quelques observations sur les points forts de Gelna, les manuscrits. Gelna a fait son édition à Tübingen, Halle et Berlin. Le seul voyage qu'il a entrepris pour son édition l'ont amené à Munich et Copenhague. Les restes des manuscrits lui ont été envoyés, mais pas tout. Il n'a utilisé que des copies ou collations faites par quelques collègues des manuscrits de Paris et des manuscrits du British Museum. La sélection des manuscrits indiens qui lui ont été envoyés a été supervisée en quelque sorte par West, bien qu'il était en Allemagne et pas en Inde la plupart des temps que Gelna a employé pour son édition. Même si la qualité des manuscrits utilisés parle pour le bien faire et la connaissance des matériaux de West, on ne peut pas exclure que des manuscrits importants ne lui ont pas été envoyés. En effet, aujourd'hui, on le sait. Ainsi, tous les manuscrits de Bidevdat Pehlevi utilisés par Gelna appartiennent à la même tradition. Il s'agit des manuscrits de Mihravanka et Hosro et leurs copies, tout copié en Inde. L'éditeur allemand n'a vu aucun manuscrit avec traduction Pehlevi écrit en Iran. 11 ans après la finalisation de l'édition de Gelna, Hossein Jamasp employait un manuscrit Bidevdat Pehlevi écrit à Kerman par le célèbre scribe Fredon Masvan. C'est une copie indépendante des manuscrits de Mihravan. Elle avait été apportée en Inde en 1853 et donnée comme présent à Manekji Sorabji Kabusji Asvarn. Donc, ces manuscrits étaient en Inde, probablement à Bombay, pendant la préparation de l'édition de Gelna, mais il lui est resté inconnu. Au début des années 40 du siècle dernier, Jamshed Kabaji Katrak fit un catalogue des manuscrits se trouvant dans les bibliothèques privées indiennes. Seulement pour les Yasna, il dresse une liste de 60 manuscrits qui n'ont jamais été utilisés dans les études avestiques. Pour le Bidevdat, le nombre est proche d'une centaine. D'après la description, la plupart ne sont très intéressants, mais on trouve aussi quelques-uns qui pourraient être importants. Il mentionne par exemple un manuscrit indien de Visperat écrit par Ardashir Sivavika. Ce manuscrit, copié en 1587, est un des plus anciens Visperat Sade indiens, copié par un scribe indien. Ce manuscrit, bien qu'il appartienne à la collection de la Mulla Feroz Library, ne fut pas non plus vu par Gelna. Du point de vue des manuscrits utilisés, La carence la plus grande des trois éditions existantes est la maigre représentation des manuscrits iraniens. La semaine prochaine, j'en parlerai en détail. Mais laissez-moi avancer justement qu'on n'a jamais fait une recherche exhaustive des manuscrits avestiques en Iran. La méthode suivie par les trois éditeurs de l'Avesta du XIXe siècle a été déterminée par une nouvelle démarche de la critique textuelle. En 1850, fut publié un livre qui allait changer l'histoire de la critique textuelle, l'édition de Derrerum Natura de Lucrèce par Lachmann. Cet ouvrage signifie l'adoption définitive de la méthode cladistique pour l'analyse des manuscrits et de son usage pour les décisions éditoriales. La taxonomie du XVIIIe siècle était basée sur les groupements des éléments en fonction des caractéristiques communes. Les travaux de Lamarck et Darwin introduisent l'élément évolutif dans la classification taxonomique. Elle ne classifie pas les êtres seulement selon leur similarité, mais aussi selon leur degré de parenté génétique et reconstruit ainsi leur histoire évolutive. Cette méthodologie triompha très vite dans les comparatifs linguistiques naissants et aussi dans les études de critique textuelle. L'analyse critique permettrait donc d'ordonner génétiquement les manuscrits, reconstruire l'histoire de la transmission et la représenter dans un stemma ou arbre généalogique. Cette analyse avait déjà été utilisée par d'autres auteurs dans la première moitié du XIXe siècle, mais Lachmann va encore plus loin. À son avis, l'analyse des relations généalogiques des manuscrits permet les choix mécaniques de la leçon correcte parmi les différentes variantes attestées dans les manuscrits. La transmission de Derrerum Natura était très appropriée pour ce type d'analyse. Il y a trois franges de manuscrits et la concordance de deux permet en fait les choix mécaniques de la leçon correcte. Jusque-là, les choix de la bonne leçon étaient le résultat du judicium, le jugement de l'éditeur. Seulement les éléments internes au texte, considérations linguistiques, philologiques ou stylistiques, comptaient pour la décision de l'éditeur qui choisissait, parmi les différentes variantes attestées, la plus convenable. Cependant, après l'édition de Lucrèce par Lachmann, les décisions éditoriales devaient aussi considérer la valeur des différents manuscrits, même si les procédures mécaniques proposées par Lachmann n'étaient pas toujours possibles ni toujours envisagées. On perçoit alors dans les travaux des trois éditeurs l'influence de cette nouvelle méthodologie, par exemple dans la préférence pour les lectures des manuscrits les plus anciens, et dans la tendance à la classification tripartite des témoins qui permettrait de choisir comme originale la lecture commune à deux témoins. Ainsi, Gelna est certain qu'on peut reconstruire l'original supposé des manuscrits Yasna Pehlevi iranien à partir des trois témoins, PT4, MF4 et MF1. La même méthode permettrait aussi de reconstruire l'original de Bidevdad. Il y a trois branches de manuscrits, Pehlevi, liturgique indien et liturgique iranien. L'accord de deux montrerait la lecture originale. L'analyse des manuscrits par Gelna est considérée comme une acquisition sûre que personne n'a remis en question jusqu'au présent. Pourtant, à mon avis, son analyse des manuscrits doit être aussi révisée, aussi bien ses conclusions que sa méthodologie. Comme j'ai publié récemment en critique approfondie dans un article paru dans le volume The Transmission of the Avesta, qui est sorti l'an dernier, je me limiterai à vous présenter brièvement sa méthode, très semblable à celle de ses prédécesseurs, et signaler ses déficiences les plus évidentes. Les manuscrits exégétiques du Bidevdad permettaient l'analyse la plus facile de leur rapport généalogique. Ils appartiennent à une tradition livresque et les erreurs de copie sont plus persistantes que dans les manuscrits liturgiques. De plus, quelques fautes évidentes montrent clairement que tous ces manuscrits dérivent d'une source commune. Une tradition parsi parlait aussi de la rareté de cette classe de manuscrits à l'époque ancienne. Tout cela a entraîné que Spiegel, Vestega et Gelna ont commencé leur analyse de la transmission avec ce groupe qui semble le plus compact. Les premières étaient Spiegel et ses conclusions ont été répétées ou confirmées par les deux autres. Suivant la méthode cladistique, Spiegel analyse les erreurs communes surtout celles qui révéleraient les aspects matériaux d'un codex original commun. Il découvre le déplacement d'un folio d'un BDFDA 3 et de plusieurs d'un BDFDA 18 et conclut que L4 et K1 dérivent du même original. De plus, quelques erreurs communes lui permettent d'affirmer aussi que P2 et K3A sont des copies de K1. À part cela, il reconnaît que K2 et P10 sont des copies de K1, mais que leur texte a été influencé par les manuscrits liturgiques. Il a déjà reconnu que ces manuscrits montrent les conséquences de la révision que Jamás Pirani fit du BDFDA de Père Lévy lors de sa visite en Inde au XVIIIe siècle. Les analyses de Vesterga et Gellner arrivent exactement aux mêmes conclusions. Vesterga reconnut en plus que L4 est copié par les mêmes scribes que K1, mais il les attribua à Rostand. Notez que Spiegel avait déjà signalé correctement que K1 avait été écrit par Mihravanka et Khosrow. La contribution de Gellner pour l'analyse de ces manuscrits reste limitée. En premier lieu, il a augmenté le nombre de manuscrits analysés et les a situés dans les cadres déjà désignés par Spiegel. Puis, il a été le premier à représenter ses conclusions sous les formes d'un stemma ou arbre généalogique. L'autre mérite de Gellner est l'analyse des colophons. Il a tracé la préhistoire des manuscrits sur la base des colophons. Mais comme lui-même l'a reconnu, c'est seulement avec l'assistance de West qu'il a été capable de les déchiffrer et de dater ainsi les manuscrits. Ni Spiegel ni Vestergaard n'analysent généalogiquement d'autres manuscrits que ceux de BDFDA de Pehlevi. Pourtant, Gellner a étendu l'analyse aux autres groupes de manuscrits. L'œuvre la plus impressionnante de Gellner est certainement son analyse et classification de la totalité des manuscrits qu'il a utilisés. La plupart ont été organisés dans des stemmata et les restes, la plupart des AD, simplement dans des groupes de manuscrits apparentés. Pourtant, bien qu'il soit impressionnant, ce travail ne peut pas être considéré aujourd'hui comme une description fiable de la transmission manuscrite. Les stemmata qu'il a produits sont une combinaison d'hypothèses obtenues par des méthodes heuristiques différentes avec des degrés de certitude certainement différents. 1. Les données des colophons. 2. L'analyse cladistique. 3. Des hypothèses historiques. 4. Finalement, des a priori en fonction de l'image qu'il a de la transmission. Les données des colophons sont les plus sûres et on regrette uniquement que son analyse, ou plutôt celle de West, ne soit pas aussi complète qu'on pourrait s'y attendre. Il a même négligé l'existence de quelques colophons. Citons en exemple le colophon de B2, c'est le point 3 du handout, qui donne la date et le nom de l'escribe. Darab Hirachanda, le même écrive que celui de M2. B2 est 30 ans antérieur à M2. Gellner n'a jamais pas trouvé le colophon, qui est bien visible, et pourtant arrivé à la conclusion que M2 était plus ancien que B2. L'analyse cladistique permet de classifier les manuscrits d'une manière très sûre, mais seulement dans certaines conditions. En plus des critiques générales qu'on a faites à la méthode cladistique au cours du XXe siècle, il faut ajouter quelques déficiences de Gellner ainsi que quelques difficultés additionnelles posées par la transmission avestique. Parmi ces déficiences, la plus simple concerne les fautes de collation. Gellner a omis beaucoup de lectures importantes pour l'analyse des rapports entre les manuscrits. Compte tenu des résultats, il semblera qu'il n'a pas fait une collation systématique de tous les manuscrits, mais simplement vérifié les passages où il a rencontré des difficultés. Au BDFDA 9-14, un groupe de Sade indiens a changé l'original Gravahe du bâton par la lecture Faciliar Paurvahe de l'intérieur. La distribution de cette lecture dans le BDFDA Sade indien correspond à celle d'autres variantes, confirmant la division de cette classe en deux groupes. C'est le point 4 du handout. Dans la parade de Gellner, aucune variante n'est mentionnée pour Gravahe. Au BDFDA 29, c'est le point 5, le même groupe de Sade écrit Eredven, érigé debout, au lieu de l'original Arden, côté. La distribution est la même que dans les cas antérieurs, mais B2 ne partage pas ces variantes, confirmant que celui-ci est antérieur à M2. La parole de Gellner ne mentionne à nouveau aucune variante. L'analyse des données est souvent conditionnée par ces idées préconçues. Ainsi, l'analyse de la relation entre F1 et PT4 ne s'explique que parce qu'il présuppose que les AD dérivent des manuscrits avec la traduction par Lévy. Il liste 11 passages dans lesquels les AD MF1 montrent les mêmes lectures que les manuscrits par Lévy, PT4 et MF4. Donc, il conclut que MF1 est un yasna extrait du yasna par Lévy original de PT4 et MF4. Mais il signale aussi 23 coïncidences de MF1 avec d'autres manuscrits sadés iraniens. Tandis que le premier révélerait une relation généalogique, le deuxième ne reflèterait que l'intention consciente d'assimiler sa copie au manuscrit sadé qu'il connaissait. Mais cela n'est qu'un présupposé de Gellner. Récemment, j'ai montré que probablement MF1 appartient à la tradition des sadés qui est à l'origine de PT4 et MF4 et non le contraire. Mais la meilleure difficulté de l'application de la méthode cladistique au manuscrit de la liturgie longue vient de la nature même de la transmission avestique. Westerka et Gellner considèrent la transmission écrite avestique comme un processus de dégénération d'un codex sassanide original. Celui-ci aurait été copié avec des erreurs commises par des prêtres qui prétendaient copier l'original fidèlement. Mais ils n'étaient pas suffisamment soignés. Ils ont fait des erreurs de lecture, des copies et ont été influencés par les textes qu'ils connaissaient par cœur. Cette vision de la transmission doit être substituée par une autre. Les manuscrits avestiques, surtout les liturgiques, ne prétendent pas reproduire un original sassanide, mais servir comme guide pour l'apprentissage de la cérémonie. Donc, ils sont en même temps le reflet et modèle de la liturgie de son temps. De sorte que les prêtres ne se limitent pas à copier un manuscrit, mais ils essaient de produire un bon guide pour la performance du rituel. Quelquefois, il corrigera son original selon d'autres manuscrits dont il dispose, ou selon les enseignements d'un prêtre influent de la même communauté ou d'une autre communauté. Les colophons le disent avec clarté. Les colophons d'un bidef d'Al-Sadeh iranien de 1622 nous informent que le manuscrit a été écrit à partir d'un manuscrit original, mais selon la doctrine, Patchastak, de son destinataire, Manushiher Rostan. Parfois, la source n'est pas seulement un manuscrit, mais aussi la consultation avec un collègue. Ainsi, le manuscrit de Shahryar Erdeshir, qui est la source de la plupart des bidef liturgiques iraniennes, fut copié d'un original de Byzant Shahryar, mais en consultation, Ashampur Saghi, avec Gund Esfandiar. Fredon Gopatsar a copié son manuscrit d'un original de Manushiher Rostam, mais il a consulté son propre père Gopatsar. En outre, la praxis rituelle de sa communauté lui servira aussi comme modèle qu'il doit comparer avec son original écrit, s'il y a un. Plusieurs manuscrits semblent même reproduire les textes du rituel que l'on connaît par cœur, son original écrit. En effet, un prêtre entraîné pouvait copier les yasna sans avoir besoin d'un original écrit. De ce fait, on se demande pourquoi on a toujours supposé que la cérémonie n'ait été copiée qu'une fois et que les restes copies aient été faits à partir des originaux écrits. Les manuscrits exégétiques sont un peu plus résistants au changement, mais ce serait trop naïf de penser qu'ils ont été uniquement reproduits sans changement volontaire. Les prêtres qui ont copié ces manuscrits, du moins quelques-uns, ont fait un travail philologique, même si celui-ci était rudimentaire et parfois infortuné selon notre point de vue. Les manuscrits exégétiques ont été collationnés avec les liturgiques. On connaît en effet différents processus de collation entre les deux traditions à des époques différentes. Dans ce contexte, la recherche des écoles rituelles et des productions des manuscrits est aussi importante que l'analyse généalogique. Pourtant, bien que cela puisse paraître incroyable, on n'a pas encore classifié les manuscrits selon leur lieu d'origine, leur date et les familles des copistes. Spiegel, Westerka et Gellner n'ont pas non plus fait une analyse codicologique qui permettrait de classifier les manuscrits selon des caractéristiques externes, comme la paléographie, les décorations, les types de papier, etc. Il en va de même pour les différentes conventions orthographiques des manuscrits et groupes de manuscrits. qui n'ont pas encore été analysées. À l'inverse de l'opinion générale, l'analyse des manuscrits de Gellner, continuité du travail de Spiegel et Westergaard, n'est absolument pas terminée ni définitive. Pour Westergaard et Gellner, chaque clade de manuscrit a son origine dans une copie unique. Ce sont les hyperarchétypes. Pour Westergaard, leur origine était claire. À l'époque sassanide, on a rassemblé les textes en avestique restants, rassemblement qui eut pour résultat les livres que nous avons, Yasna, Vispedat, Videftat, Yast et même la cérémonie du Videftat. On les a mis par écrit et quelques copies ont été envoyées à toutes les régions de Rojom. Après l'invasion arabe et la progressive conversion à l'islam, la communauté zoroastrienne se concentra dans la région de Yast et Kerman. Dans les autres régions, les manuscrits ont disparu avec les communautés qui les ont créées. Il ne reste donc que des copies des manuscrits envoyés à l'époque sassanide à Yazd et Kerman. La diminution en importance et nombre de la communauté zoroastrienne a entraîné la disparition de plusieurs manuscrits, même dans cette région. En conséquence, peu de copies ont survécu. Voire même seulement une pour la plupart des textes. De ces copies uniques dérivent les manuscrits iraniens et même les indiens. C'est dans ces régions que la communauté parsi, ayant perdu les manuscrits qui avaient été importés en Inde, a cherché de nouvelles copies. Pour Westergaard, son rôle comme éditeur est donc la reconstruction de l'original sassanide, dont les hyperarchétypes de Yazd seraient des copies exactes. Pour Gellner, le problème est bien différent. En 1892, la publication du quatrième volume de Par la vie texte par West, où sont recueillis les textes Pehlevi décrivant les 21 âges de l'Avesta, a entièrement changé la perspective. La tradition parsi, qui parlait des 21 livres de l'Avesta et les informations d'Anquetil du Perron à cet égard, se sont vues confirmées pour les données des livres Pehlevi. Sauf les Videvdat, aucun texte qui a survécu dans les manuscrits ne correspond à la description des Nasques dans la littérature Pehlevi. De ce fait, la question du rapport entre l'Avesta que nous avons et l'Avesta des 21 Nasques se pose. Dans les Prolegomena, Gellner n'affronte pas les problèmes directement. Cependant, il fait la distinction entre l'Avesta des 21 Nasques et la liturgie longue. Ces dernières existaient déjà à l'époque sassanide, parallèlement à la collection des Nasques, et les textes de la liturgie longue étaient répandus dans cette collection parmi plusieurs Nasques, en particulier dans les Stot Yasm. Dans les Grundris, il s'exprime avec plus clarté. Les canons sassanides et les canons des 21 Nasques et les manuscrits ne continuent que les textes qui étaient employés dans la liturgie. La mise par écrit de la liturgie eut lieu longtemps après l'époque sassanide. Les manuscrits liturgiques, c'est-à-dire les manuscrits que nous avons, ne sont pas des copies directes plus ou moins corrompues de l'Avesta sassanide, mais une rédaction nouvelle de quelques récitatifs liturgiques rédigés tenant compte des versions préservées dans les grandes Avesta. Spiegel l'avait déjà dit 10 ans auparavant. L'Avesta est un livre de prière. Darmestetta s'est montré aussi du même avis. L'Avesta, tel que nous le possédons, ne serait que les débris de l'Avesta sassanide des 21 Nasques. Ce qui est préservé sont les textes qui faisaient partie de la liturgie. Les livres liturgiques ont été copiés indépendamment des 21 Nasques. Quant aux livres non liturgiques, ils ont été copiés moins souvent et ont donc disparu plus facilement. Les uns et les autres appartiennent donc à des traditions parallèles. Cette distinction fut annulée par l'hypothèse d'Andreas. Les traits principaux de la théorie d'Andreas avaient déjà été exprimés par son maître Spiegel à plusieurs reprises. L'Avesta aurait été mis par écrit antérieurement à la version que nous connaissons avec une écriture de type sémitique, similaire à l'écriture Pehlevi. Cela expliquerait quelques variations dans les voyelles, surtout des quantités, et aussi quelques fluctuations entre consonnes, par exemple entre fricatives et occlusives. La différence la plus notable entre la position d'Andreas et celle de son maître est la portée de ces confusions. Alors que pour Spiegel, cette copie plus ancienne n'explique que quelques erreurs occasionnelles, selon Andreas, il y a des fautes et des erreurs généralisées de lecture. mais une lecture incorrecte généralisée implique nécessairement que les textes n'existaient qu'à l'écrit. Il ne considère pas l'existence de liturgies réelles dans lesquelles les textes étaient récités, parce que sinon, une lecture fautive généralisée ne serait pas possible. Bailey a profondément critiqué l'hypothèse d'Andreas et a mis l'accent sur la transmission orale. Il propose un double processus d'édition. Une première édition de 21 nas au VIe siècle à partir d'un texte transmis à l'oral. Puis, après la chute de l'Empire sassanide, une nouvelle édition de quelques fragments qui auraient survécu de la première. C'est aussi l'idée de Gellner. Mais si pour Gellner, la deuxième rédaction était la rédaction des textes liturgiques, pour Bailey, c'était l'édition des fragments sauvés de la première. Pourtant, ils ne sont pas des fragments. Ils sont les récitatifs de quelques liturgies et rituels bien réels, comme les savaient bien Spiegel, Gellner et Darmstädter. Cependant, la linéarité de la transmission écrite et la considération des notes textes avestiques comme des fragments du Grand Avesta est une des principales caractéristiques de la vision de Hoffmann. Il a éliminé définitivement la distinction entre le Grand Avesta et les livres liturgiques. Il l'a répété plusieurs fois. Nos manuscrits dérivent de l'archétype sassanide. C'est vrai qu'il a évité de mentionner quel était le contenu de l'archétype sassanide, mais quelques indices signalent qu'il pensait à l'Avesta de 21 nasques. Nos manuscrits dérivent de l'archétype sassanide par la médiation de six archétypes. Ces dernières ne sont que des copies abîmées de celui-ci. Malheureusement, les réflexions de Gellner sur la distinction entre l'Avesta sassanide et les liturgies sont postérieures au début des travaux éditoriaux. Donc, elles n'eurent pas aucune conséquence pour sa praxis éditoriale. En fait, le texte édité par Gellner est très proche de celui de Westergaard. Il suivit la même disposition textuelle. Pour l'éditeur danois, les Videbdaves, les Jasna, les Vispera de l'Eyas sont le résultat de la collection de textes avestiques sous divers rois sassanides, comme elle est décrite dans le livre Pihlevi. Ces textes ne sont pas liturgiques. Seule la cérémonie du Bidev d'Al-Sadeh, qui aurait été assemblée à la même époque, est un texte liturgique. La composition de la traduction par la vie des textes non liturgiques fut simultanée à la collection. Donc, les manuscrits originaux sont les manuscrits Pihlevi. Il reconnaît que les manuscrits de Bidev d'Al-Sadeh, avec son introduction en Pihlevi et sans instruction rituelle, datent aussi de l'époque sassanide, mais son édition, qu'il annonce pour un troisième volume, n'est jamais parue. L'édition de Westergaard est l'édition des textes avestiques comme ils apparaissent dans les manuscrits exégétiques. De ce fait, il fut le premier à éditer les Vísperas comme un texte indépendant selon sa présentation dans les manuscrits exégétiques et pas comme il apparaît dans les manuscrits liturgiques. Pourtant, le Vísperas des manuscrits exégétiques n'est pas un texte, mais une sélection des fragments de la cérémonie de Vísperas qui avait besoin d'être traduits pour qu'ils n'étaient pas traduits dans les traductions de Jasna ou de Videvdat. Dans les manuscrits liturgiques, ces fragments font partie d'une liturgie solennelle parallèle à celle de Jasna. Gellner suivit le chemin de son prédécesseur. Il édite les récitatifs de la liturgie longue et de la liturgie brève comme s'ils furent des textes non liturgiques, malgré ce qu'il dit dans les prolegomena. Les manuscrits liturgiques ne sont utilisés que pour apporter des lectures divergentes. C'est un des problèmes les plus graves de l'édition de Gellner et de tous les autres. Seul Kellens a rompu avec cette tradition. Il avait ouvert le chemin dans la deuxième moitié des années 90 du siècle dernier, quand il a réintroduit et rendu plus clair que jamais la distinction entre les grands Avesta et l'Avesta liturgique ou rituel. Dans ses études avestiques et masdéens, il attira les conséquences éditoriales de ses postulats théoriques. Il rompt donc avec la tradition d'éditer et traduire les Jasna d'une part et les fragments du Vísperas de l'autre. Par contre, il édite et traduit les récitatifs de la liturgie longue dans ces deux variantes, la quotidienne, Jasna, et la solennelle, Vísperas. Pourtant, le texte qu'il édite n'est pas le texte réel de la cérémonie solennelle comme on le trouve dans les manuscrits, mais le texte comme on le peut reconstruire sur la base de l'édition de Gellner de Jasna et du Vísperas. Comme j'ai montré dans une conférence ici au Collège il y a 2 ans, les différences entre la cérémonie quotidienne et la solennelle ne se limitent pas pourtant aux 24 morceaux de Vísperas qui sont inclus dans la version des manuscrits Pihlevi et des éditeurs européens. Donc, on peut dire que des 5 variantes de la liturgie longue attestées dans les manuscrits Une seule est éditée complètement dans les éditions européennes, la variante quotidien. Pour les autres, on ne connaît que quelques parties, mais pas la cérémonie entière. Dans les dernières années, j'ai compilé les textes et les alternatives possibles de chaque variante de la liturgie longue. Les textes sont disponibles sur le site de la Vestan Digital Archive. Les manuscrits liturgiques incluent, en outre du récitatif avestique, des instructions rituelles en Pehlevi ou Gujarati. Ils nous donnent les contextes rituels des textes avestiques et sont d'une grande utilité pour comprendre les cursus rituels de la cérémonie. Quelques parties de la cérémonie longue, qui nous semblent qu'une accumulation de répétitions, sont seulement compréhensibles si elles sont éditées avec les instructions rituelles. C'est le cas des préliminaires de la cérémonie. On peut comparer dans le handout 6 l'édition de Gelna avec mon édition provisoire qui inclut les récitatifs et les instructions rituelles dans les différentes variantes de la cérémonie. Gelna n'édite que les récitatifs qui consistent dans la répétition de quelques prières qu'on connaît ailleurs. Par contre, les manuscrits liturgiques montrent ces prières dans leur contexte rituel. L'officiant se lave les mains et va à la place du prêtre à Travax. Là, il récite la Shembohu et le Fravarane du moment du jour correspondant, Yajna Seron. Selon si la cérémonie est dans le temple ou dans la maison, il récite une dédicace au feu ou l'autre, Yajna 02. Si le même prêtre qui fait les préliminaires va continuer comme officiant principal, alors il récite une version dialoguée de la Huna Vairio. Sinon, il commence et les prêtres assistants, le Raspik, continue, c'est Yajna 03. Puis, il nettoie chaque côté de l'autel du feu en récitant trois Azembohu de chaque côté et pour finir, il récite un Ahuna Vairio. Ces indications rituelles placent les récitatifs dans son contexte liturgique et ne doit pas manquer dans une édition de la liturgie longue. En plus, comme j'ai déjà montré à d'autres occasions, ces instructions rituelles appartiennent à la même tradition que la collection de Neran réunie dans une section du Nashrus Panon du Grand Avesta, le Neran Gestan. On en parlera lors de la troisième conférence. Cependant, Darmesteta est le seul qui a montré quelque intérêt pour ces instructions rituelles. Dans sa traduction du Yajna, il donne la traduction de celle en Gujarati qu'il trouve dans l'édition d'Anglesaria pour prêtre Parsi et de celle en Pehlevi d'après une collation par Ouest des instructions qu'on trouve dans PT4. Il faudrait qu'une nouvelle édition de la liturgie longue prenne note de la lecture liturgique des textes qu'elle édite. Elle devra donc représenter les différentes variantes liturgiques et inclure non seulement les récitatifs avestiques, mais aussi les instructions rituelles qui l'accompagnent. L'édition de Gelna est devenue, en vertu de la grandeur de son travail et le nombre de manuscrits qu'il put consulter, et malgré ses défauts, une édition définitive. Après lui, les travaux éditoriaux se sont arrêtés. Dans son dictionnaire, Bartholomé a corrigé un bon nombre de décisions éditoriales de Gelna, et dans son article de 1901, il montre son désenchantement progressif pour l'édition de Gelna. Il arrive même à la considérer comme pas finie, ce qui serait une malfaisance pour la philologie avestique. Après Bartholomé, pourtant, le succès de la théorie d'Andreas a mis le point final à l'intérêt pour les manuscrits, devenu témoin d'une tradition pervertie. On doit attendre jusqu'à Karl Hoffmann pour retrouver de l'intérêt pour les problèmes éditoriaux et les travaux directs avec les manuscrits. Il était concerné surtout avec la dernière phase de l'édition, appelé dans les premières éditions le criticisme bas, c'est-à-dire les choix entre les multiples variantes à tester pour chaque mot et la restitution de la forme qui apparaît dans l'archétype sassanide. Lors de ma quatrième conférence, je parlerai en détail des problèmes pour les choix de la variante correcte et discuterai la méthode de Hoffmann. Mais permettez-moi de mentionner maintenant ces caractéristiques principales qui vont conditionner les éditions post-hoffmanniennes. Hoffmann a poussé la théorie des hyperarchétypes jusqu'à ses limites. Il a trouvé une faute de transmission commune à tous les manuscrits du Yajna. Il s'agit d'une erreur de copie. Au lieu des ionimes, l'écrivain a commencé à écrire Ziao, a remarqué son erreur et a continué à écrire ionim après avoir effacé Yao. Le résultat est que dans tous les manuscrits qui contiennent ce passage, on trouve la lecture Ziao Yenim, parce qu'un scribe n'a pas noté que le Yao avait été effacé. Ces fautes communes à tous les manuscrits viennent démontrer que tous les manuscrits liturgiques, Yasna, Visperat, Bidevdat et Vistaspiast, et en plus, les manuscrits exégétiques de Yasna, Pehlevi et Sanskrit, dérivent du même original. Les conséquences historiques tirées de cet argument philologique sont extraordinaires, et aussi les conséquences pour la pratique éditoriale. La critique textuelle ne nous permet que d'arriver à une copie fautive de l'original sassanide. Son original est l'archétype sassanide. En plus, ses recherches sur l'écriture avestique ont montré que dans les manuscrits, et à son avis déjà dans les six archétypes, quelques lettres de l'alphabet avestique n'étaient plus utilisées avec leur valeur originale. Quelques nuances phonétiques que les créateurs de l'alphabet avestique avaient distinguées seraient dès lors confondues dans les archétypes. Donc, le but de toute édition est la reconstruction des textes avestiques comme ils apparurent dans l'archétype. Hoffmann est plus proche de Westergaard que de Gellner. Notez la citation de Hoffmann-Narten que vous trouvez dans le handout dans le point 7. Hoffmann et Narten ont annulé, comme Bailey avant eux, la distinction qui avait été introduite par Darmstadt et Gellner entre la Vesta sassanide et les collections rituelles. La question de savoir si nos collections rituelles ont été écrites à l'époque sassanide ou non ne se pose pas. L'écriture avestique aurait été inventée pour écrire les textes que nous avons. Les travaux de Kellen sur la transmission nous ont pourtant rappelé à l'ordre et ont mis en relief à nouveau la distinction entre les deux collections. Pour la reconstruction de l'archétype, la méthode de Hoffmann combine la comparaison de différentes attestations de forme, la comparaison avec les védiques et la recherche sur l'écriture avestique. Le dernier point continue les discussions sur la valeur phonétique des lettres avestiques à la fin du XIXe siècle, surtout entre Salomon, Bartholomé et Gellner. Très éclairante est par exemple la discussion sur les trois différentes lettres pour l'esch palatal qui va jouer un rôle très important aussi pour Hoffmann. Bartholomé a découvert la distribution étymologique de ces trois lettres et est arrivé aux mêmes conclusions auxquelles arrivera Hoffmann 100 ans plus tard. Bartholomé trouve la distribution originale dans les manuscrits iraniens K4. Pour Gellner, cela reste une hypothèse attractive qui ne peut pas devenir un critère éditorial parce que la distinction est limitée aux manuscrits iraniens et surtout parce que les plus anciens témoins, les manuscrits de Mihravan, ne montrent pas une telle distribution. Il formule son critère éditorial avec une clarté éclatante, c'est le point 8 du handout. On ne peut pas reconstruire la distribution originale et donc c'est préférable d'éditer selon les conventions d'un bon et ancien copiste, Mihravan, qui est ainsi comme on suppose que l'a fait le script de l'archétype. Pour Hoffmann, par contre, il n'y a pas de doute. La distribution découverte par Bartholomé est réelle et on doit éditer en conséquence. Il a fermé presque définitivement la discussion sur la valeur phonétique et la distribution étymologique des lettres avestiques au moment de l'invention de l'écriture avestique, mais ses conclusions sur l'histoire de la transmission des textes avestiques et les décisions éditoriales dérivées de celles-ci méritent encore une discussion plus approfondie que l'on donnera dans la quatrième conférence. La tâche de l'éditeur moderne des textes avestiques est devenue celle de les éditer comme ils avaient été copiés la première fois à l'époque sassanide. Donc, l'édition de Gellner n'est pas satisfaisante des points de vue de la Constitutio Textus. Alors que Gellner édite les textes des six archétypes, l'éditeur post-Hoffmannien doit éditer les textes de l'archétype sassanide. Les travaux de Hoffmann ont suscité la réédition de beaucoup de textes avestiques, d'habitude accompagnés de traductions et commentaires philologiques. Elle représente l'application pratique à la praxis éditoriale des travaux de Hoffmann. D'une part, l'orthographe originale sassanide est réintroduite, et d'une autre part, on améliore sur un certain nombre de points les textes de Gellner grâce aux avancements de la philologie et la linguistique avestique. Pourtant, bien que ces éditions se présentent comme telles, elles ne le sont pas vraiment parce que, parmi d'autres raisons, elles ne sont pas basées sur l'observation des manuscrits. Parfois, l'éditeur a consulté une sélection très limitée des manuscrits originaux ou des facsimiles, mais la plupart des données sont obtenues de l'édition de Kellner. Le texte édité est une version toilettée, selon les termes de Kellens, d'après les principes que je viens de mentionner. Le texte reste donc, une fois de plus, le texte des manuscrits exégétiques, avec introduction occasionnelle des lectures qui proviennent des manuscrits liturgiques. La paracritique est aussi une reproduction de celui-ci de Kellner, mais souvent arrangée d'une façon différente. Quant au choix éditorial, il est fait parmi les variants reproduits dans la parade de Kellner. Nous avons déjà parlé des conséquences de la dépendance des manuscrits exégétiques. Mais je vais à présent vous dire quelques brefs mots sur la paracritique de Kellner, qui pendant plus de 100 ans a été la source principale des données pour la philologie avestique. L'éditeur allemand, comme ses prédécesseurs, n'indique pas toutes les variantes des manuscrits. Il ne prétend que donner une sélection qui permet de se faire un jugement concernant les plus importants manuscrits. De plus, il ne donne pas exactement les variantes telles qu'elles apparaissent dans les manuscrits. Quand il mentionne une variante, elle n'apparaît dans ses formes que dans les premiers manuscrits. Le reste des manuscrits de la liste offre des lectures similaires, mais pas nécessairement identiques. Disons-le clairement, la parade de Kellner ne reflète pas la transmission d'un passage dans les différents manuscrits, mais sa vision de la transmission de ces passages. La sélection des variantes par Kellner est, certes, beaucoup plus complète que celle de Spiegel et Westergaard, mais est loin de refléter la variété que l'on trouve dans les manuscrits. On a déjà vu aujourd'hui quelques exemples d'omissions importantes. La comparaison de Jasna 9.1 dans le point 9 du handout, dans les éditions de Spiegel, Westergaard et Kellner, et dans la mienne, résultat d'une collation de 98 manuscrits, montre l'ampleur de la simplification des éditions du 19e siècle. Bien que Kellner ait augmenté considérablement la paracritique par rapport à Spiegel et Westergaard, ces données restent encore trop sélectives pour donner une vision exhaustive de la transmission. Les éditions post-Hoffmanniennes partent de cette simplification des données et ne peuvent pas donc être considérées comme des pré-éditions, mais plutôt comme des rééditions révisées de l'édition de Kellner. Les éditions qui sont appelées à remplacer l'édition de Kellner ne peuvent pas être basées sur la parade de Kellner, mais doivent être basées sur les manuscrits. Mais elles ne peuvent pas non plus se limiter à transformer l'avestique de Kellner en celui de Hoffmann, qui est censé de représenter l'archétype sassanide. L'article de Kellens de 1998 sur la transmission de l'Avesta a ouvert une brèche que l'on ne peut pas refermer si facilement. Si les manuscrits liturgiques ne dérivent pas du grand Avesta, c'est-à-dire de l'archétype sassanide, si c'est possible que l'écriture avestique n'ait pas été inventée pour la copie des manuscrits liturgiques, mais du grand Avesta de 21 Nasques, donc les fondements historiques pour la reconstruction du récitatif de la liturgie longue zoroastrienne comme elle aurait été mise par écrit sur les sassanides, se dissipent irrémédiablement. Donc, il faut bien changer notre but éditorial ou chercher des fondements nouveaux pour cette reconstruction. En outre, les nouvelles éditions des textes rituels avestiques, spécialement celles de la liturgie longue, doivent rendre compte du caractère rituel de ces textes. À présent, nous sommes en train de changer une vision fermée de la transmission de la liturgie longue, basée presque exclusivement sur un processus de copie à partir d'un seul manuscrit, en une vision ouverte de la transmission. Dans celle-ci, les manuscrits doivent être considérés dans leur contexte historique et surtout dans leur fonction fondamentale, fournis des guides appropriés pour la performance du rituel. Manuscrits et pratiques rituelles se trouvent indissolublement unis. L'analyse des manuscrits comme les éditions doit prendre conscience de ces faits. La base pour une nouvelle édition doit être les textes liturgiques avec ses différentes variantes et alternatives et inclure aussi les indications rituelles des manuscrits. L'édition de Kellner a fait son travail pendant un siècle et a permis des avancements énormes dans la philologie avestique. Les travaux de Hoffmann ont fermé presque définitivement l'analyse sur l'alphabet avestique et ont fourni un horizon chronologique nouveau et une méthode éditoriale renouvelée. Pourtant, une révision de quelques de ces présupposés est encore nécessaire, surtout sur l'horizon chronologique. En outre, les éditions post-hoffmanniennes ont perpétué quelques défauts de l'édition de Gellner et ses prédécesseurs. Les principales années qu'on édite fondamentalement les textes des manuscrits exégétiques, et alors on cache les caractères rituels des récitatifs liturgiques. Mais il y a aussi d'autres, comme la dépendance des manuscrits indiens. Les prochaines conférences sont une réflexion sur quelques de ces problèmes, et je commencerai la semaine prochaine avec les plus simples, les nouveaux manuscrits qu'on a découverts dans les dernières années. Je vous remercie pour votre attention.